franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Dieu se fout de savoir si je suis homosexuel. Dieu m'aime tel que je suis. L'homme qui parle ainsi s'appelle Christian, il a 51 ans, il habite près de Poitiers et si ce matin il fait la une du Parisien, et si le journal consacre par ailleurs 2 pages à son témoignage, c'est parce qu'il est prêtre. Moi, Christian, prêtre et homosexuel, annonce le quotidien, s'inspirant là du titre d'un livre qui fit scandale dans les années 80. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Christian, lui, ne cherche pas à faire scandale, mais ce qu'il raconte, pour la première fois à visage découvert dans la presse, pourrait bien pourtant faire des vagues dans le si feutré milieu ecclésiastique. 8 jours après le coming out d'un prélat polonais, il raconte donc que lui aussi a dû quitter son ministère pour l'amour d'un homme, avec lequel il vit depuis 10 ans, mais il fait encore aujourd'hui partie de l'Église. Car même s'il ne célèbre désormais plus la messe, aux yeux de l'Église, Christian est toujours prêtre. « Et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle », martèle-t-il, en précisant qu'il n'a jamais été relevé de ses fonctions. Lorsqu'il a annoncé son homosexualité à ses supérieurs, on lui a proposé une sortie discrète dans sa paroisse. Il n'a pas dit qu'il quittait ses fonctions pour une histoire d'amour, avec un homme, non. Il a dit qu'il partait pour devenir prêtre ouvrier. Pas simple cependant de quitter la sacristie. « J'ai mis, dit-il, 4 ou 5 ans à m'en remettre et maintenant il dirige une structure d'insertion ». Mais il y a fort à parier que son témoignage va nourrir le débat récurrent sur le célibat et la sexualité des prêtres, et plus précisément le débat sur l'homosexualité dans l'Église. Officiellement, pourtant, la question ne se pose pas, relève Stéphane Albouy dans son éditorial. Lorsque l'on interroge la conférence des évêques de France sur la position de l'Église à propos des prêtres homosexuels, elle assure ne pas avoir connaissance de cas concrets, non, tant qu'il n'y a pas de publicité. L'Église ferme les yeux, analyse Olivier Bobineau, sociologue des religions. Mais là, il y a publicité, difficile de fermer les yeux. Des brèches se sont ouvertes et la parole est donc en train de se libérer, constate le journal. Une parole libérée, c'est aussi dans un autre genre ce que revendique la patronne du Front National.
Marine Le Pen qui fait la une du journal du dimanche avec ce titre « Un Français sur trois prêt à voter pour elle ».
Une enquête de l'IFOP à propos de la prochaine présidentielle, mais si de fait 31% des sondés se disent prêts à choisir le bulletin Le Pen en 2017. Près de 7 sur 10 affirment exactement l'inverse. 69% déclarent qu'ils ne voteront jamais pour elle. Du reste, les 2/3 jugent qu'elle est sectaire, qu'elle n'a pas de solution pour sortir le pays de la crise et qu'elle n'a pas l'étoffe d'un président de la République. Commentaire du président de l'Institut. Cela montre la difficulté de Marine Le Pen à rassembler dans la perspective d'un second tour, en effet. Mais si l'hebdomadaire a choisi de faire sa une avec ceux que le Front National séduit, c'est parce que le parti a plus que jamais le vent en poupe à l'approche des élections régionales. Du reste, comme l'explique Le Monde, tous les partis d'extrême droite d'Europe sont aujourd'hui dopés par la crise des migrants en Autriche, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. 3 exceptions toutefois, la péninsule ibérique, le Portugal et la Finlande. Mais il est bon parfois de rappeler certains chiffres. En l'occurrence, rappeler que seule une minorité des 11 millions de Syriens fuyant la guerre civile, seule une minorité arrive à atteindre l'Europe. Pour l'essentiel, ils se retrouvent dans d'autres régions de leur pays ou bien dans les pays voisins, comme le raconte Anna Jaber dans Le Monde diplomatique. Alors donc, qui accueille vraiment les réfugiés? C'est le titre de l'article. Réponse, l'Union européenne en accueille 332 000, mais ils sont 2 fois plus, 629 000, à avoir trouvé refuge ces derniers mois en Jordanie. Ils sont 4 fois plus, 1 148 000 à avoir trouvé refuge tant bien que mal au Liban et près de 2 millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie, laquelle serait d'ailleurs le pays le mieux organisé. Les associations d'aide et les médias ont relevé la qualité des services offerts à ceux que le dictateur syrien a jetés sur la route. À propos des réfugiés, je vous conseille par ailleurs la lecture dans Le Monde des extraits du livre « Dans la peau d'un migrant » du journaliste Arthur Freyer-Lalex. Il a suivi les filières de migrants du Pakistan à Calais. Et il s'est donc fait passer lui-même pour un migrant, l'occasion notamment de rencontrer des passeurs, témoignage de l'un d'eux, un Afghan qui raconte son sinistre marché. « La première chose que je regarde, dit-il, c'est s'ils ne sont pas trop gros. Les gros, je ne les envoie pas en Europe. Un gros, il ne peut pas marcher longtemps, il est lent, il consomme beaucoup d'eau. C'est très difficile de le dissimuler dans une cache à l'arrière d'un camion. En revanche, c'est moitié prix pour les enfants de moins de 8 ans, parce qu'ils prennent bien moins de place. » Cynisme à l'état pur, ce n'est pas toujours agréable de lire une parole libérée.
Frédéric, vous parliez de la Turquie, premier pays d'accueil des réfugiés syriens, et les journaux ce matin reviennent évidemment sur le double attentat perpétré hier matin à Ankara.
Un double attentat lors d'une manifestation pour la paix, bilan. Une centaine de morts et près de 200 blessés. Photo de l'explosion à la une de la Dépêche du dimanche qui parle d'un carnage pour l'indépendant catalan. Il s'agit d'un massacre. Résultat, la Turquie est aujourd'hui en plein chaos, comme le constate Ouest-France, tandis que l'Est éclair évoque un pays horrifié et la planète est en émoi. Après cette attaque terroriste, souligne Centre Presse, le journal de l'Aveyron. Dans le même temps, la tension ne retombe toujours pas entre Israël et les territoires palestiniens. De nouvelles victimes hier. Et ce matin encore, à Gaza, deux Palestiniens ont été tués dans un raid mené par l'armée israélienne. Et une Palestinienne a été tuée en Cisjordanie par l'explosion d'une bombe qu'elle manipulait. D'où ce titre pleine page dans Sud-Ouest dimanche. Un Proche-Orient de poudre et de sang. Concernant les deux bombes qui ont explosé en Turquie, difficile de savoir qui en sont les auteurs. Le Parisien évoque trois hypothèses, toutes plausibles, mais toutes incertaines. Raison pour laquelle le journal du dimanche parle d'un attentat mystérieux. Sachant toutefois que l'opposition accuse le président turc. Quant aux attaques qui se multiplient entre Israël et la Palestine, le JDD relève qu'on est passé de la guerre des pierres à la guerre des couteaux.
Une interview étonnante à lire également cette semaine.
Oui, à la rubrique « Celui qu'on n'attendait pas là », Michel Onfray dans VSD. Et pas pour parler de philo, non, mais pour dire tout le bien qu'il pense de son ami Michel Drucker. Il représente, dit-il, la France populaire, la France d'en bas, la France modeste, et il me touche beaucoup car il est resté un petit garçon. Michel est une espèce de résistant dans le paysage audiovisuel, il parle correctement, il est compétent et gentil, il veut le bien des gens. Que peut-on demander de mieux dans une époque où l'on ne célèbre que le fric, le cynisme, l'arrogance et l'insulte, l'hommage d'Onfray à Drucker? C'est donc à lire dans VSD. À la rubrique « Celui qui doit se marrer de se retrouver là », Jean-Luc Mélenchon dans « Closer ». Et pas pour parler de politique, non d'ailleurs il ne parle pas, l'Hebdo People parle à sa place et nous apprend que le fondateur du parti de gauche est follement amoureux d'une jeune actrice productrice, laquelle est l'ex-compagne de Gérard Jugnot et la meilleure amie de Valérie Trier-Weller. Et puis à la rubrique, celle qu'on est ravi de jeter là, les seins de Naomi Campbell.
Moi, je vous en prie.
À la une de Lui, mais aussi en page intérieure,
des enfants
où l'ex-mannequin apparaît même dans le plus simple appareil. Dans son éditorial, Frédéric Bébédé explique qu'il s'agit là d'un acte politique. Patricia, Naomi Campbell milite en effet pour qu'on voit davantage de femmes noires dans la pub et dans les défilés de mode. Regardez bien notre série de photos, ajoute Bébédé. Elle a toujours l'air de lancer un défi. On a bien regardé et on a trouvé ça très beau. C'est bien parfois quand les corps se libèrent.
Il y a quelque chose de très bien à faire tout à l'heure aussi, non pas longtemps, hein, à 9h15 sur France 5, c'est de regarder un documentaire sur un couple aussi incroyable que génial. C'est Maurice Utrillo et Suzanne Valadon. Il se trouve qu'on y entend votre voix, Frédéric.
Je lis en effet l'histoire de cette relation passionnée entre Valadon et Utrillo. Valadon qui était la mère de ce grand artiste Maurice Utrillo, deux peintres, un duo incroyable.
Duo infernal à 9h15 sur France 5.